turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 19.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Un verset très court. N'éteignez point l'esprit. Et comme dans l'original grec, c'est l'esprit, n'éteignez point. C'est à l'envers. Et en grec, c'est l'esprit qui est souligné, le Saint-Esprit, bien sûr. L'esprit, parce qu'il est si glorieux, si puissant et si important pour nous. L'esprit, n'éteignez point. C'est là l'original en grec. Celui qui réside en vous, qui est divin, dans chaque croyant. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau par l'esprit, chacun a l'esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit de Dieu vient à la conversion. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans avoir l'esprit. Vous n'avez pas l'esprit, alors vous n'avez jamais été converti. Mais si vous avez été converti, alors l'esprit est en vous. Quelle pensée que celle-ci, chers amis. Parfois, nous devrions simplement méditer sur cette pensée pendant un moment. En moi, j'ai un invité qui réside là, la troisième personne de la Trinité glorieuse, le Saint-Esprit, qui est divin, qui est égal au Père, qui est également Dieu, également éternel, également tout-puissant, qui est partout, dans tout l'univers et au-delà, qui est particulièrement, personnellement, d'une manière mystérieuse, en moi. J'ai un invité qui réside en moi, le Dieu Saint, qui est là en moi, et qui me dirige, qui me garde, qui me protège. Comment est-ce que je peux me comporter de manière à l'offenser? Combien est-ce que je serai particulièrement sérieux par rapport à la vie, par rapport à mon comportement, et faire attention en toute chose si je réfléchissais à cela plus et si je comprenais cette notion, l'esprit n'éteignez point. Combien facilement nous sommes inconscient de notre privilège, de l'étendue de notre privilège, de cette nature exceptionnelle de cette chose, comment Dieu a décidé de résider en nous par son esprit. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, au chapitre 2, quand l'esprit est venu pour la première fois pour prendre le contrôle de l'Église de Jésus-Christ, vous vous souvenez comment il est apparu comme des langues séparées, comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux, alors que l'Esprit est venu pour diriger l'Église, pour lui donner la puissance. Il est également entré dans chaque individu. C'est là la puissance de l'Esprit qui occupe l'Église et la puissance de l'Esprit qui occupe également la place dans chaque individu, chaque croyant. Nous avons cette flamme qui nous est donnée, quelque chose de précieux qui nous est donné. Et nous devons savoir comment elle opère en nous, comment cette flamme ou ce feu du Saint-Esprit se manifeste en nous et dans l'Église. Nous avons besoin pour cela de souligner les Écritures qui enseignent cela et comment l'Esprit œuvre. Comment nous le remarquons, comment nous l'expérimentons, de manière à ce que nous ne l'éteignions pas, que nous n'éteignions pas l'œuvre du Saint-Esprit en étant insouciant ou indifférent ou insensé. Certaines personnes ont des idées complètement fausses par rapport à comment le Saint-Esprit se manifeste et quelle forme il prend et comment il œuvre. Et c'est une tragédie. Par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Saint-Esprit se manifeste par des bruits, par de grandes choses, même par des choses terrestres et mondaines. Et plus un prédicateur fait du bruit, plus il peut faire du théâtre ou bouger beaucoup et aller en haut et en bas d'une estrade et crier le plus qu'il peut, plus l'Esprit est là. Certaines personnes insensées vont dire « Oh, l'Esprit Saint était là !» Oh, est-ce que nous voyons ceci dans l'Écriture ? Est-ce que ceci nous est révélé dans la Bible, dans la révélation de Dieu, comme étant la manière par laquelle l'Esprit sera expérimenté et ressenti ? Non, pas du tout. Je me souviens, il y a bien des années, alors que j'étais aux États-Unis, il y avait une émission télévisée d'une église, je ne vais pas mentionner de nom, et le prédicateur faisait exactement ce que j'ai mentionné. Il faisait tellement de bruit d'une manière qui n'était pas nécessaire, non pas qu'il était un peu excité ou passionné dans son message, non, il faisait des choses complètement extraordinaires, il bougeait dans tous les sens, il était agité, il criait, il hurlait, les gens dansaient, et il y avait un orchestre important, et tout était complètement fou. Et les gens disaient, c'est là la manifestation du Saint-Esprit. Oh, cette personne en particulier, peu de temps après, a été dans la difficulté dans son église et avec d'autres personnes parce qu'il semblait qu'il avait des affaires en dehors de son mariage et il fraudait également, il ne payait pas d'impôts, il s'enrichissait lui-même avec l'argent de l'église, etc. Ou si le Saint-Esprit était vraiment présent dans ce culte que j'ai vu à la télévision, alors vous n'auriez pas entendu l'Esprit, parce que l'Esprit aurait été dans son cœur, parce que c'est ainsi que l'Esprit œuvre, dans cette conviction extraordinaire par rapport au péché, son comportement. Il aurait dû être convaincu de cela. C'est ainsi que l'Esprit œuvre. C'est extraordinaire. Les gens, dans certains pays, et même de nos jours, font des idoles parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils n'ont pas cette compréhension réelle de la vérité. Et les idolâtres doivent faire une image de Dieu. Alors ils font toutes sortes de dieux, d'idoles, d'argent, d'or, de pierre, de bois. Et d'une manière extraordinaire et bizarre, certaines personnes font ceci de l'Esprit-Saint. Ils n'ont pas réellement l'Esprit, alors ils doivent faire une image de l'Esprit. Et ils pensent que cette présence imagée de l'Esprit sera pleine de décibels, de bruits, de dynamiques humaines et toutes sortes de choses semblables. Mais non, ce n'est pas le cas. Et voyons comment l'Esprit se manifestera. Et nous verrons que le feu de l'Esprit qui est mentionné ici n'éteignait point l'Esprit. Dans d'autres versets, nous voyons que l'Esprit se manifeste dans la sanctification, dans la pureté, dans le fait d'œuvrer pour produire cette pureté, cette conviction dans notre cœur, cette sanctification. Également dans le fait de donner cette lumière, cette compréhension à notre cœur et également pour nous donner ce zèle, cette ferveur pour le service du Seigneur et pour faire de bonnes œuvres. Ce sont là les trois parties de cette opération puissante du Saint-Esprit. Pas loin d'ici, à peu près à 300 mètres, comme vous le savez, il y a le parc de Kennington où le grand réveil de 1739 a commencé. Et là, dans ce parc, dans un jour plein de brouillard d'octobre, George Whitefield a commencé à prêcher à 6 heures du matin et de grandes foules, d'une manière extraordinaire, se sont rassemblées. Certains pensent qu'il y avait à peu près 40 000 personnes qui étaient là à écouter la prédication. C'était très difficile d'entendre parce qu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Ces cultes n'étaient pas dans un endroit fermé, dans un bâtiment, mais c'était en plein air. Avec beaucoup d'opposition autour, beaucoup de bruit, les gens criaient et murmuraient, etc. Et les gens même lançaient des briques. Il y avait beaucoup de personnes. Et comme de ce que nous savons, George Whitefield n'avait pas une voix importante. Souvent, on décrit sa voix comme étant une voix plutôt haute et non pas basse. Et c'était un inconvénient pour les prédicateurs. C'était difficile d'entendre. Probablement, à moins que vous soyez très proche, vous ne pouviez pas bien entendre. Le Saint-Esprit n'était pas manifesté par la puissance de la voix du prédicateur. Il fallait se concentrer si vous n'étiez pas tout près. Et cependant, par la puissance de l'Esprit qui œuvrait dans les cœurs, des milliers de personnes ont été converties. George Whitefield commençait par chanter un psaume. Il n'y avait pas d'instrument ici. Non pas qu'ils étaient contre les instruments, mais ceci était en plein air. Et beaucoup de gens ne connaissaient pas le psaume ou pas suffisamment pour le chanter. Même dans notre église, si nous mettons de côté nos cantiques, ce serait difficile de connaître les paroles par cœur. Humainement parlant, ces choses peut-être semblaient petites et c'est ainsi que ça a commencé. Et cependant, le Saint-Esprit était là, il y avait la puissance et la conviction dans les cœurs. Certains endroits où Whitefield a prêché étaient tellement grands et en plein air. C'est un miracle qu'on pouvait l'entendre. Humainement parlant, il n'y a aucun doute qu'il avait probablement une bonne capacité oratoire. Et les prédicateurs étaient assez lents à l'époque. Il fallait prêcher plus lentement pour que les gens puissent suivre à l'époque, dans ces temps-là, pour que le son puisse aller plus loin, pour que vous puissiez entendre bien si vous étiez loin. Mais ne vous trompez pas, la puissance du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui est produit humainement, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Et d'abord, j'aimerais lire dans Malachie chapitre 3, verset 2, voici le prophète là, qui dit « Et qui pourra soutenir le jour de sa venue ?» en parlant de Christ. « Et qui pourra subsister quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il y aura l'ensemble des prêtres. Tout ceci sera fini. Et il y aura des prédicateurs dans l'église chrétienne. Une nouvelle ère. » Et il les affinera comme on affine l'or et l'argent, ils seront à l'Éternel. C'est là le prophète qui parle de la venue de Christ, qui par son esprit sera celui qui purifie, qui convainc de péché, qui œuvre dans les cœurs. Et nous pouvons lire d'autres écritures. Dans Hébreux chapitre 12, verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il viendra dans la promesse du Saint-Esprit, il va convaincre le monde de péché. Et c'est là notre premier point, l'œuvre du Saint-Esprit qui sanctifie. Il nous convainc de péché quand nous sommes convertis, quand nous réalisons profondément que nous sommes pécheurs devant Dieu, que nous avons besoin de Christ. Comme notre Sauveur, nous avons besoin de sa mort expiatoire pour notre péché. Et nous venons dans la repentance, dans la foi envers lui. Et tout le long de notre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui œuvre dans notre conscience. Si nous sommes prêts à dire quelque chose qu'il ne serait pas bon de dire, quelque chose de malhonnête, de méchant ou qui a de la colère en soi, alors le Saint-Esprit œuvre dans notre conscience. Comment est-ce que nous répondons à cela? Est-ce que nous continuons et nous le disons de toute manière pour mettre de côté l'Esprit Saint qui œuvre dans notre conscience? Ou peut-être vous êtes prêt à faire quelque chose ou à avoir quelque chose ou à commettre un péché? Ceci, c'est éteindre l'Esprit Saint. Éteindre l'Esprit Saint. Oh, certaines personnes disent que éteindre l'Esprit Saint, c'est ces églises qui arrêtent les orchestres, les danses et toutes ces activités. Oh, combien c'est insensé de dire que ceci, c'est l'Esprit Saint. Non, éteindre l'Esprit Saint, c'est quelque chose de personnel. Cette flèche qui nous convainc de péché et la mettre de côté, ce qui me garde de la tentation et qui m'alerte, c'est là, éteindre le Saint-Esprit, que de ne pas écouter cette voix. Et si nous faisons ceci, de manière répétée, alors le Saint-Esprit arrête d'œuvrer dans notre conscience. Et ceci en arrive à attrister l'Esprit Saint, à l'amener dans la détresse. L'Esprit Saint en nous, qui œuvre en nous pour nous protéger, pour nous amener à avancer spirituellement, pour nous aider, il est dans la détresse. Pensez un peu à cela, l'émotion de Dieu, la détresse du Saint-Esprit. Et ceci en arrive, peu de temps après, à une résistance contre l'Esprit-Saint. Vous êtes entièrement contre lui. Ainsi, n'éteignez point l'Esprit-Saint, chers amis, mais coopérez avec lui. Marchez dans l'Esprit. C'est là, coopérez avec l'Esprit-Saint. Marchez dans l'Esprit, dit l'apôtre Paul. Et alors, vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. C'est Galates, chapitre 5, verset 16. Marchez avec lui et marchez à côté de lui dans le même pas. Et soyez reconnaissants quand il œuvre dans votre conscience, quand il vous arrête. Et alors, invoquez-le pour qu'il vous aide et mettez à mort les actions de la chair. Mettez ces choses de côté, rejetez ces choses, sinon vous éteignez l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là la première partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens 7, imaginez que vous avez commis un grand péché. Imaginez que ceci s'est passé pendant un certain temps. Et ensuite, cette conviction vient dans votre cœur. Nous avons lu ceci dans notre lecture de la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. J'ai lu tout ce passage parce que ceci est très important. Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a été portée à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu. L'apôtre Paul va expliquer ce que c'est que ceci selon Dieu. Verset 10, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut et dont on ne se repent jamais, qu'on ne regrette jamais. Et ensuite, les détails au verset 11, car voici, contemplez cela, cette même tristesse selon Dieu, c'est ainsi que l'Esprit a œuvré en vous. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Soudainement, vous étiez conscient de ce péché et vous avez réalisé qu'il n'y a rien de plus important que de vous séparer de ce péché, de ce désir de convoitise, de ces choses impures, de cette image que je regardais, peu importe le péché, je dois recevoir la délivrance de ce péché par l'aide de Dieu et me séparer de ce péché. Quelle indignation! En grec, ce terme « indignation », c'est cette indignation contre moi-même. En réalisant comment j'ai offensé le Seigneur, le témoignage pour lui, contre Dieu, contre son œuvre, quelle indignation! Oui, quelle crainte! Et Dieu va enlever ses privilèges. Quelle bénédiction, quel désir, désir d'être pur, quel zèle, ce terme chaleur à nouveau, le zèle, et combien ceci était important pour vous. Vous avez ressenti ce feu en vous, ou quelle détermination également de se séparer de ces choses qui vont vous encourager à pécher. Ou quelle mort à soi, si vous voulez, pour se débarrasser de ce péché. En toute chose, vous avez montré à tous égards que vous êtes pur dans cette affaire. Ce sont là la preuve de votre repentance que l'apôtre Paul a vue et il a cherché ces choses. Il a vu ces choses dans l'église de Corinthe. Les gens étaient profondément dans le désir d'être juste devant Dieu. C'est ainsi que l'Esprit-Saint œuvre. Je suis sûre que vous avez vu que c'est ainsi qu'il œuvre dans votre vie. Prenez toujours la repentance au sérieux, profondément, et ce combat contre le péché qui est très sérieux et très important, peu importe la forme de ce péché, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne ressentirai jamais ces choses par moi-même, dans ma nature humaine, j'éteindrai l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit-Saint œuvre de telle manière à ce que je sois convaincu de péché et sérieux et j'ai le désir de me séparer de ce péché. C'est là l'œuvre authentique du Saint-Esprit dans nos vies. Chers amis, j'aimerais lire également Apocalypse. Ceci s'applique à l'Église. Apocalypse 3, 14, écoutez cela. Écrit aussi à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Oh, cette église tiède, verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, et tu te confies en toi-même, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors que tu ne connais pas, que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle et nu. » Et au verset 19, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et ensuite ces paroles, « Aie donc du zèle et repens-toi. » C'est là le feu de l'esprit. Soyez chaud, zélés et repentez-vous. C'est là ce qui est dit littéralement en grec. Ce terme zélé vient directement du grec. Ceci signifie chaleur. Soyez plein de ferveur, de passion, de détermination, de zèle par rapport à ceci. En tant qu'Église, repentez-vous de vos mauvaises voies. L'Église de Laodicée était tiède et elle avait besoin de se repentir de cela et de trouver la chaleur de l'amour d'un chrétien. Et ceci est vrai pour nous. Je vous montre l'œuvre de l'Esprit dans un individu qui a péché de manière grave et envers une Église qui a perdu sa ferveur pour le Seigneur. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. N'éteignez point l'Esprit. Ainsi, le premier point, c'est cette puissance de purification, de conviction de péché, cette œuvre de sanctification de l'Esprit-Saint. C'est ainsi qu'il se manifeste. Le deuxième point, c'est cette œuvre d'illumination du Saint-Esprit. N'éteignez point l'Esprit. C'est une flamme qui parle de la vie, de la chaleur, de la lumière également. Et j'aimerais lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, quand vous avez un exemple merveilleux de ceci et vous connaissez ce verset, à partir du verset 25, c'est Christ le Seigneur ressuscité, qui apparaît à deux disciples qui marchent hors de Jérusalem, après la crucifixion et la résurrection de Christ. Alors il leur dit, ils sont sur le chemin d'Emmaüs, il leur dit, « Ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire, lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, et c'est comme s'il leur prêchait, c'est une congrégation de deux personnes, mais Christ les instruit sur pourquoi il était nécessaire pour lui de souffrir, de mourir à la croix du calvaire. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Ainsi ils approchèrent du bourg où ils allaient, mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin, et ils le contraignirent à s'arrêter, en lui disant « Demeure avec nous ». Ensuite, il s'est installé pour le repas, il a prié pour le pain et l'a rompu, et leurs yeux ont été ouverts et ils l'ont reconnu, et il a disparu, ils ne le voyaient plus. Et ils se sont dit l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est là la flamme de l'Esprit. Alors que Christ expliquait les Écritures pour eux, le Saint-Esprit a œuvré en eux pour appliquer ces paroles dans leur cœur, les mettre en pratique. Ils ont été avertis, illuminés, ils ont réalisé, compris ces choses et ils ont été si encouragés. C'est là l'œuvre de l'Esprit. Alors que vous lisez les Écritures pour vous-même, alors que vous entendez la prédication de la parole de Dieu en public, l'Esprit œuvre en vous et vous touche. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, « N'éteignez point l'Esprit » et directement après nous lisons « Ne méprisez point les prophéties ». Bien sûr, les prophéties ne sont plus de nos jours. Le temps des prophètes est accompli, est fini. Les prophètes du Nouveau Testament ont parlé ces paroles de la part de Dieu comme les apôtres dans les églises du Nouveau Testament. C'était quelque chose de temporaire, une période. Ils étaient inspirés par Dieu pour prêcher la vérité. Pourquoi ? Parce que la Bible n'était pas encore entièrement écrite. Les épîtres de Paul étaient encore à écrire. Le livre de l'Apocalypse devait encore être écrit. Les épîtres de Pierre également. Les évangiles eux-mêmes devaient encore être écrits par ces écrivains inspirés qui ont été autorisés et approuvés par les apôtres. Tout ceci devait encore être écrit ainsi. Dans cette période, alors que l'écriture n'était pas encore complète, Dieu parlait par des prophètes. Il les a inspirés par ses doctrines, ses vérités. Mais l'ère prophétique est passée parce que l'écriture était complète après cela. Et ensuite, c'est là l'écriture qui est l'autorité de Dieu pour toute vérité, pour la détermination de toute chose spirituelle. L'écriture est complète et finie. Et c'est là notre autorité. Nous n'avons plus besoin de prophètes de nos jours. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'instruction pour les prophètes dans le Nouveau Testament. On nous dit comment mettre à part les pasteurs, les anciens, les diacres, mais rien pour les prophètes, parce qu'il n'y aura pas de prophètes de deuxième génération. L'écriture est accomplie, est pleine, est entièrement écrite et finie. Ainsi, quand vous lisez au verset 20, « Ne méprisez point les prophéties », toutes ces prophéties maintenant sont dans l'écriture. Peut-être vous pouvez même de nos jours paraphraser cela en « Ne méprisez point le ministère public de la parole », si cela est fidèle à la parole de Dieu. Ne méprisez jamais ces choses, ne traitez jamais ces choses à la légère. Ce terme mépriser en grec signifie ne mettez pas de côté, comme n'étant pas important pour vous. C'est éteindre l'esprit, n'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties. Si vous êtes là assis à écouter la prédication que vous rêvez en disant tout ceci n'est pas pour moi, tout ceci n'a aucune demande morale pour moi. Si vous prenez l'habitude de traiter l'écriture à la légère, c'est éteindre l'esprit qui veut vous donner la joie dans votre cœur, la lumière et vous encourager et vous donner toutes ces promesses, les promesses de la parole, les doctrines de la parole. Ainsi, soyez toujours prêts à être touchés par la parole, comme quand vous lisez la parole vous-même. Ce n'est pas simplement un exercice technique de lire la parole de Dieu à la maison, mais vous vous posez ces questions importantes. Quelle doctrine est-ce que je vois dans ce passage ? Je veux savoir ce que ce passage veut dire, ce qu'il me dit, et je me pose ces questions également. Quelle doctrine est-ce que je vois là ? Est-ce que je vois Christ dans ce passage ? Est-ce qu'il y a une correction ? Est-ce que je suis repris par ce texte ? Est-ce qu'il y a une promesse ici pour moi ? Est-ce qu'il y a un encouragement pour moi ? Est-ce qu'il y a une obligation, un devoir pour moi, pour mon Église, que peut-être je néglige ? Nous nous posons ces questions quand nous lisons la parole de Dieu. Et en nous posant ces questions, nous ne méprisons pas les prophéties. Nous ne prenons pas les paroles de l'Écriture à la légère. Ce matin, dans cette congrégation, combien de fois est-ce que vous avez lu dans l'Écriture ou entendu dans la prédication ? C'est simplement un exemple. Par rapport au jour du Seigneur, par rapport au fait de garder le jour du Seigneur, par rapport au commandement de Dieu, par rapport à l'importance de l'adoration du Seigneur, entendre sa parole, non pas simplement une fois, mais soutenir la prédication de l'Évangile et donner ce jour du Seigneur au Seigneur, en laissant la télévision éteinte, en ne faisant pas les courses le jour du Seigneur, à moins que ce soit une nécessité absolue, que vous ayez un empêchement terrible. Combien de fois nous lisons ceci, l'importance du jour du Seigneur, et ceci passe comme à côté. et nous allons encore aller d'une manière qui n'est pas nécessaire au supermarché le jour du Seigneur, et nous regardons des programmes télévisés et nous faisons un travail le jour du Seigneur parce que nous ne sommes pas bien organisés et nous venons uniquement une fois le dimanche au culte alors qu'il y a deux cultes dans la journée. Chers amis, ceci c'est mépriser la parole de Dieu, ne pas se laisser toucher par la parole de Dieu, même des chrétiens sauvés par le sang de Christ. Et nous allons au ciel par sa grâce uniquement, mes péchés sont pardonnés, mais moi, est-ce que je vais marcher à la légère? Et je lis ces choses et elles ne me parlent pas. Je ne suis pas réellement sous la direction du Seigneur, de la parole. Ainsi, j'éteins l'esprit, ma conscience n'est pas touchée, je ne remets pas en question mon comportement. Que ceci ne se passe pas pour vous, chers amis. Certaines personnes qui sont vraiment rétrogrades laissent ces choses se passer dans leur vie et ils errent. Oh, alors ils ne sont pas bénis par le Seigneur parce qu'ils ne sont pas dirigés par lui, ils ne règnent pas dans leur cœur, ils ne sont pas encouragés par le Seigneur, ils ne sont pas avertis, ils errent et ils ne le savent pas. Ce sont là des paroles pour nous, c'est une chose extraordinaire que d'avoir le Saint-Esprit qui œuvre en nous, d'avoir son aide. Ne le méprisez pas, ne méprisez pas la parole quand il l'amène à vous, c'est quelque chose de très triste et qu'il vous empêche tant de bénédictions. Ne méprisez point les prophéties. J'aimerais lire un autre texte dans 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, lorsqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous avez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Ce sont là des épreuves, mais qui sont là pour augmenter notre foi, pour augmenter notre dépendance de Christ et pour l'expérimenter lui. Chers amis, vous pouvez faire ceci uniquement en gardant les promesses de Dieu, en l'écoutant. Je me demande s'il y a des amis ici qui, chaque fois que vous avez des circonstances difficiles, vous tombez dans le découragement parce que vous ne gardez pas la parole de prophétie. Et vous ne vous souvenez pas des promesses pour les appliquer dans votre vie. Oh, tout ceci se passe dans ma vie, mais j'ai les promesses de Dieu. Il est avec moi et je vais regarder à lui et non pas chercher de l'aide dans les choses humaines. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Je vous supplie, chers amis, de garder cette parole d'exhortation. » Il dit « Frère, je vous prie de supporter cette parole d'exhortation. » En grec, ce terme « garder la parole d'exhortation », c'est « soyez obéissant et supporter ces choses ». C'est quelque chose de positif qui est à l'esprit ici. Laissez-vous donner un défi par rapport à ces choses, supporter ces choses. Porter ces choses comme le joueur de rugby qui doit prendre ces choses sur lui-même et résister pour faire face. Et cette parole d'exhortation de la parole de Dieu, alors que vous la lisez en privé ou que vous l'entendez par la prédication, que cette parole d'exhortation, vous puissiez la supporter, l'accepter, que votre corps puisse prendre le poids de cette parole, que votre âme puisse la considérer. C'est pour vous aider. Elle va vous transformer, vous aider et vous amener plus près du Seigneur. N'éteignez pas l'esprit. C'est son œuvre d'illumination pour œuvrer en vous. Que nous puissions toujours apprendre et avancer spirituellement. J'aimerais parler du zèle, cette chaleur de l'esprit, cette œuvre de conviction, cette chaleur de l'esprit, n'éteignez point l'esprit et le modèle du Seigneur. J'aurais voulu lire Jean 2, la première occasion où le Seigneur a purifié le temple. Et tous ceux qui vendaient des animaux pour le sacrifice, tous ceux qui changeaient l'argent, et il a entièrement purifié le temple. Et avec ce fouet qui représentait le jugement de Dieu, il les a amenés hors du temple avec zèle et vigueur. Dans le psaume 69, le zèle de ta maison m'a dévoré, et notre Sauveur est notre exemple. Il est notre Sauveur, notre Dieu. Il avait ce grand zèle pour la maison de Dieu. Ce zèle, il n'avait pas un mauvais tempérament, une colère, mais son amour si profond pour la pureté de la maison de Dieu l'a amené à faire sortir tous ces criminels qui étaient dans le temple du Seigneur. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce terme chaleur, c'est ce terme zèle, où le zèle de ta maison m'a dévoré. Ou si nous pouvions avoir plus de zèle pour défendre l'Écriture, plus de zèle pour proclamer l'Écriture, plus de zèle pour les âmes perdues, plus de zèle. C'est l'Esprit qui nous le donne. Ne l'éteignez point. Ne laissez pas ces choses être réduites à 5 minutes. Ne mettez pas ces choses de côté. L'apôtre Paul a recommandé les Corinthiens pour leur zèle qui donnait pour ceux qui souffraient de la famine, pour l'œuvre de Dieu. Oh, ils avaient ce zèle, ils ressentaient ce fardeau pour soutenir l'œuvre. Ils aspiraient profondément à ces choses. Oh, qu'il y ait plus de zèle en chacun d'entre nous. L'Esprit Saint met ceci dans notre cœur, mais nous éteignons ces choses. Nous voulons une vie tranquille, nous ne voulons pas avoir ce zèle par rapport à ces choses. Peut-être que votre tempérament est contre ces choses. Certaines personnes, naturellement, sont zélées, ou certains sont peu zélés. Ces gens, c'est un avantage parfois, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup avant d'agir, c'est une bonne chose, ça peut être une chose positive, un avantage. Mais souvenez-vous, il y a également un inconvénient en cela. Vous avez une responsabilité de garder ce zèle en vie pour le Seigneur. Une autre personne peut être naturellement très logique. C'est un don de pouvoir réfléchir de manière raisonnée et avec beaucoup de soin, mais faites attention. Ce don, votre tempérament, peut-être peut éteindre cette ferveur, cet amour pour le Seigneur, ce zèle pour lui, et c'est une responsabilité que de garder ces choses en vie et d'être des gens qui ont ce zèle, ce feu de l'amour pour le Seigneur, ce désir, ce feu pour la prière, pour les supplications, ce feu d'amour pour les âmes perdues. Oh, j'aimerais lire Colossiens 4. Oh, que d'être comme Épaphras dans Colossiens 4, verset 12. Une référence rapide. Épaphras, qui est des vôtres et serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières de manière fervente. C'est là ce terme chaleur qui revient à nouveau pour que vous soyez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu, ce grand zèle qu'il a pour vous dans la prière. Verset 13, « Car je lui rends le témoignage qu'il a un grand zèle pour vous. » Ce terme chaleur à nouveau. Et pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Épaphras, qui était un homme zélé, plein de chaleur, personne plein d'amour. L'apôtre Paul mentionne son témoignage au verset 13, son désir pour leur sainteté, pour leur foi, et qu'ils soient des gens mis à part. Notre temps est passé. Quel privilège que d'avoir la puissance du Saint-Esprit en nous pour la sainteté, pour cette lumière, cette joie, pour ce zèle. Ainsi, si vous avez cette conviction de l'Esprit-Saint, cet avertissement de votre conscience, n'éteignez point l'esprit, mais répondez à la parole de l'Esprit, alors il va œuvrer encore plus. Et prenez bien au sérieux la lecture personnelle de la parole de Dieu. Posez-vous ces questions, soyez prêts à être repris par la parole et répondez à l'appel. Alors le Saint-Esprit va vous donner la lumière. Et s'il vous donne ce zèle, alors remerciez-le pour cela. C'est un trésor, c'est tellement précieux. Et agissez. C'est votre responsabilité que de laisser ce feu en vie, de le ranimer. Et c'est là la responsabilité des individus et des églises, là où le Saint-Esprit œuvre. N'éteignez point l'Esprit Saint, tout-puissant de Dieu. J'ai lu par rapport à Winston Churchill, pendant la guerre, partout où il allait, il a pris avec lui des gens, certaines personnes. Il avait avec lui son docteur, Lord Murran, qui était toujours avec lui dans chaque voyage, son docteur personnel, privé, qui était le docteur le plus important dans le pays, qui était le président de la société des docteurs. Et avec lui, il avait un ou deux généraux, également un officier important. Il avait avec lui son secrétaire personnel, il avait avec lui son cuisinier et d'autres personnes que je ne vais pas mentionner. Quelle vie que celle-ci! Les grands sont là avec leurs conseillers, ceux qui les aident, c'est ainsi qu'ils voyagent. Chers amis, vous et moi, peut-être nous sommes des chrétiens qui sont solitaires, mais nous avons bien plus, nous avons l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Vous avez le Saint-Esprit tout-puissant, omniscient, omniprésent, l'Esprit de Dieu. C'est un mystère, je ne peux pas décrire cela, je ne peux pas comprendre ces choses. C'est un privilège extraordinaire. Dans cette année à venir, cette nouvelle année, ne l'éteignez point, mais laissez-le vous sanctifier, laissez-le vous illuminer, laissez-le vous donner ce zèle, l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous connaîtrons même plus de bénédictions.